Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Prolongation, votre rendez-vous bimensuel que vous pouvez retrouver de 21h30 à 23h sur l'antenne de Radio Courtoisie, la radio de toutes les droites et de tous les talents. Je suis très heureux de vous recevoir, de pouvoir faire cette émission avec vous, que j'espère nombreux évidemment. Et avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez évidemment soutenir cette radio libre et indépendante en faisant des dons à cette radio. Si vous préférez financer une radio libre qui donne la parole à des invités d'exception et à des personnalités de talent. Et en parlant de personnalités de talent et de figures de cette radio qui est Courtoisie, j'ai le bonheur d'être avec Alexandre de Galzin ce soir. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Stanislas.
Beaucoup de sujets. C'est un peu votre grand entretien, si je puis dire. C'est votre interview à vous. Beaucoup de sujets. Nous avons la chance de pouvoir aller dans le fond ce soir. Et évidemment, comme vous vous en doutez, nous allons beaucoup débattre, discuter, analyser ce qui s'est passé lors de l'affaire Quentin. Cette affaire que vous avez suivie ces derniers jours, où un jeune homme, ce militant nationaliste et catholique Quentin de Ranque, lynché à mort par des militants d'extrême gauche, proches de la Jeune Garde, notamment potentiellement de collaborateurs parlementaires de Raphaël Arnaud, issus de la Jeune Garde et très proches de Jean-Luc Mélenchon, puisque Jean-Luc Mélenchon, ces derniers temps, et on en reparlera, a évidemment affirmé son soutien à ces miliciens. Et puis aussi, tout autour de cette affaire, les conséquences politiques, médiatiques, mais aussi, et c'est peut-être ce sur quoi je voudrais vous interroger en premier, Alexandre, sur une question un peu plus idéologique. C'est-à-dire que, et on en parlait un peu hors antenne tout à l'heure, et je sais que vous avez écrit un papier dessus dans la revue Éléments, excellente revue que je vous invite à vous procurer incessamment sous peu. Peut-on tuer des nazis? C'est comme ça que vous avez titré votre article. Et alors que la dialectique de gauche est justement d'expliquer que parce que Quentin sera un militant néo-nazi, d'une certaine façon ça pardonnerait l'acte barbare de ces milices d'extrême gauche. Et c'est leur point d'attaque, c'est d'ailleurs le point lors de l'assassinat de Charlie Kirk également, c'est-à-dire que si Charlie Kirk est un nazi, bah, on a le droit de le tuer, même le devoir de le combattre. Et qui dit combattre, parfois, dit abattre. Et c'est l'angle que vous avez choisi d'aborder dans votre papier, Alexandre, et je crois que pour commencer, et peut-être prendre un peu de hauteur sur le sujet, nous pourrions rentrer dans ce débat-là.
Alors, parler de m'interroger, Stanislas, étant donné que nous ne sommes que deux ce soir, je pense que nous répartirons le plus équitablement possible.
Vous aurez le droit de m'interroger aussi, Alexandre.
Je m'autoriserai mon propre travail de journaliste que je réalise quotidiennement pour Ligne Droite. Tout simplement, pour commencer, je voudrais faire un petit rappel historique très simple. C'est que... quoi qu'on en dise, alors déjà évidemment pour donner un petit peu de contexte, mon article, ce titre « Faut-il tuer les nazis par outrance ?» évidemment que Quentin de Ranque lui-même n'était pas un nazi, d'abord un catholique et ensuite un nationaliste, ce qui signifie absolument pas, ce qui n'est absolument pas à mettre sur un trait d'égalité. Un point qui est assez intéressant, c'est que on n'a jamais tué les nazis. En fait, tout le monde se rappelle bien sûr... De l'idée des procès de Nuremberg, hein, ce qui a été réalisé après la Seconde Guerre mondiale, un tribunal international dans le but de statuer sur l'idée nouvelle de crimes contre l'humanité qui n'existait pas jusqu'à présent, et donc, a fortiori, de savoir qui était responsable de cette guerre menée par le nazisme, qu'on appelle encore hitlérisme à l'époque d'ailleurs, effectivement, qui est responsable du génocide des juifs, mais aussi des autres génocides qui ont eu lieu durant cette guerre. Un point très simple, c'est que déjà, tous les dirigeants nazis n'ont pas été tués. Beaucoup ont réussi à réchapper des procès de Nuremberg. Et au-delà de ça, un point historique très simple fait que en Allemagne, en 1945, on estime qu'il y a entre 8,5 et 9 millions de personnes qui ont leur carte au NSDAP. Donc, qui sont militants du parti nazi. Et je rappelle qu'à l'époque, rien ne forçait l'Allemagne qui pesait déjà je crois, 70 millions d'habitants, à adhérer au parti nazi. C'est-à-dire qu'il y avait pas forcément, il y avait forcément une pression sociale comme peut y en avoir aujourd'hui, même en démocratie, mais dans le fond, il n'y avait aucune obligation d'adhérer au parti nazi. Et pourtant, 8,5 à 9 millions d'Allemands avaient leur carte, et eux, on ne les a jamais jugés.
Parce qu'on est deux, donc je me permets.
Faites comme chez vous.
Vous avez encore près d'1h25 de temps de parole, donc... petite nuance peut-être à apporter, mais d'un point de vue très simple, il n'était pas possible de toute façon de juger 9 millions de personnes,
en fait,
indépendamment de ce qu'elles auraient pu faire, croire, ou dire ou faire.
Il y a deux réflexions qui viennent à ce... Enfin, même plusieurs réflexions qui viennent à ce moment-là. La première, c'est quand même qu'il faut se rappeler que dans les procès de Nuremberg, on sort quand même peu de temps avant... des bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki, des bombardements de Dresde aussi, qui ont tué quand même 80 000 personnes en seulement quelques jours, chiffre assez impressionnant. Et puis au-delà de ça, il faut rappeler que l'armée soviétique était quand même particulièrement brutale envers les nazis, qu'elle ne combattait pas pour des raisons idéologiques, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, évidemment, c'est des considérations purement nationalistes qui, qui rentrent en compte. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour deux raisons, on ne tue pas ces nazis. La première, c'est effectivement que c'est pas réaliste. Pour faire simple, comme quand Charles de Gaulle arrive en France et prend la décision de créer une forme d'union nationale post-Seconde Guerre mondiale, en faisant finalement assez peu de jugements chez les collaborateurs et assez peu de morts d'ailleurs chez les collaborateurs. Rares sont ceux qui, parmi les collabos, ont été condamnés à mort, voire condamnés tout court. Je rappelle que même le maréchal Pétain bénéficie d'une grâce à ce moment-là.
Mais certains sont fusillés, et après le procès de Nuremberg, certains seront tués.
Bien sûr.
En France, des collabos, enfin, des personnes jugées telles quelles, l'exemple de Robert Brasiak, que vous connaissez très bien, un 6 février 34 également, finira fusillé.
Alors, donc, pas, d'une certaine un 6 février, façon, pas 34, mais un 6 février. Un 6 février également.
L'astuce non révélateur, oui. Évidemment, chers amis.
C'est tout à fait juste, mais il faut rappeler que d'abord, le procès de Brasiak est expéditif et qu'il est considéré par la majorité des personnes qui s'y intéressent, en fait, comme un procès inique. Quoi qu'on puisse en penser aujourd'hui, hein. D'ailleurs, je reste simplement dans...
d'anachronisme.
Non, voilà, pas d'anachronisme, mais sans doute, Brasiak méritait-il d'être jugé, voire condamné à mort. Enfin, c'est des considérations qu'on peut avoir aujourd'hui, mais la manière dont s'est déroulé le procès était considérée de manière presque unanime comme étant inique. Pour revenir aux Allemands eux-mêmes, ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, il n'est pas possible de fusiller 8,5 à 9 millions de personnes d'un coup. D'un autre côté, l'autre raison pour laquelle ils n'ont pas été tués, c'est tout simplement parce qu'ils n'avaient rien fait. C'est-à-dire que, tout simplement, ces gens adhéraient aux idées du NSDAP, qui était en plus déjà génocidaire en action lui-même, le NSDAP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 80 ans plus tard... on est quand même extrêmement loin de même des personnes qui sont ouvertement néo-nazis,
oui,
sont extrêmement loin de ça, mais juste là-dessus. Ce qui se passe, c'est que ces gens apportent un soutien moral au NSDAP et eux-mêmes ne sont pas jugés parce que, en fait, en réalité, ils n'ont rien commis eux-mêmes.
Oui, mais alors attendez, cher Alexandre, trois éléments peut-être sur ce que vous venez de dire, en tout cas pour vous questionner, mais...
D'un coup.
Le premier, mais votre esprit sera suffisamment brillant pour les traiter... De la façon la plus brillante qui soit. Un premier élément, certains qui ont commis justement des crimes, eux ont été tués, et c'est là où on revient sur la question de pouvait-on tous les tuer, ou les abattre, ou les fusiller, ou les juger convenablement. Premier sujet. Donc, vous dites certains n'ont rien fait, mais certains qui ont fait ont été tués. Mais deuxième point, et c'est là où c'est intéressant, c'est que certains ont commis des atrocités, et on le sait maintenant, certains ont été même à la baguette et ont réussi à s'en tirer, ou réussi d'ailleurs à s'instaurer dans certaines institutions, notamment au niveau de la construction européenne, on le sait aujourd'hui, certains membres...
Aux États-Unis, hein, tout
aux
simplement.
Aux États-Unis, en fuyant, etc. Donc certains ont réussi à s'y échapper en ayant fait des choses. Troisième élément, je vais en rajouter un quatrième, pardon. Troisième élément, il y a quand même eu des tracts de nazis pendant toute la deuxième partie du XXe siècle. Notamment, enfin, vous connaissez les grands procès après qui ont eu lieu, hein, enfin, on l'appelle les procès Eichmann... entre autres, enfin, Klaus Barbie, etc., le boucher de Lyon. Donc déjà, ils n'ont jamais été traqués et tués pour beaucoup. Et puis le dernier élément, là où en effet il faut, et vous l'avez rappelé, mais je le re-rappelle, c'est pas tant une question qu'un petit rappel sur ce que vous venez de dire. En l'occurrence, dans le cadre de l'affaire Quentin, c'est pour ça que j'ai précisé, nous prenions de la hauteur, ou en tout cas nous essayons de contextualiser cette affaire dans un cadre plus historique. Évidemment que Quentin n'était ni de cette obédience-là, ni près, ni loin. C'est un militant nationaliste.
Il était catholique, tout simplement.
Révolutionnaire, ou en tout cas NR. Mais en tout cas, il n'était pas. Mais je vous l'avais déjà dit, mais je le rappelle parce que...
Oui, non mais bien sûr. Sur ces points, d'abord, il faut rappeler que ceux qui ont été jugés a posteriori, c'est-à-dire 20 ans, enfin 10 ans, 20 ans, 30 ans après, ceux qui ont été attrapés par le Mossad, notamment, vous en parliez à l'instant, ça reste quand même vraiment des épiphénomènes en termes de nombre. C'est-à-dire qu'on parle de quelques personnes seulement, alors peut-être quelques dizaines aussi, on peut prendre monsieur, son prénom m'échappe, mais Schacht, qui était lui pour le coup le trésorier du Reich jusqu'en 1941, lui-même effectivement a travaillé dans d'autres institutions par la suite, mais quand il est rattrapé par le Mossad, finalement, il ne subit même pas de procès. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a cette idée que les gens qui méritent d'être tués directement en termes de procès et tués de manière froide, j'ai envie de dire, en dehors de la guerre pure, après la défaite des nazis, sont extrêmement faibles. C'est-à-dire que, honnêtement, on parle probablement de quelques dizaines, voire centaines de personnes, probablement pas plus. Ce qui est assez intéressant, c'est que l'argument de la gauche va être, par exemple, sur des personnes comme, encore une fois, de manière très extrapolée, hein, bien sûr, mais que sur des personnes comme Quentin, ou même sur des personnes qui seraient réellement nazies en France, il y en a sans doute quelques dizaines, quelques centaines qui s'en revendiquent. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils disent, oui, en fait, ces gens-là, peut-être qu'ils n'ont rien commis pour l'instant, mais ils sont génocidaires en puissance. C'est-à-dire que si on porte leur logique à bout, ils seront génocidaires. Mais moi, je réponds simplement, mais à partir de ce moment-là, sans doute le communisme est-il aussi génocidaire en puissance? On voit très bien la manière dont se sont toujours instaurés les États communistes. Et d'une certaine façon, oui, peut-être qu'un nazi isolé aujourd'hui en France, en puissance, à la tête d'un régime qui serait effectivement nazi, sans doute s'engagerait-il dans une Waffen-SS ou autre, mais en tant que tel, il n'a rien commis, et à partir du moment où une personne n'a réalisé aucun acte répréhensible et n'a même pas agi pour réaliser ces actes répréhensibles, en fait, on ne peut pas condamner quelqu'un pour ce qu'il pourrait faire en puissance et même ce qu'il souhaite faire. C'est-à-dire que je vais même aller plus loin. En fait, je vais prendre l'exemple inverse. C'est-à-dire que sans doute, Stanislas, comme moi, avez-vous de temps en temps des aspirations bonnes, élevées et justement tournées vers un bien éternel et profond.
Très régulièrement.
Voilà. Et sans doute, enfin, peut-être, après, vous, Stanislas, êtes pratiquement un saint vivant, mais d'une certaine façon, ne les réalisez-vous toutes pas, ces actions?
En l'occurrence, si.
Alors, vous êtes une exception, mais de manière générale et plus sérieusement, en fait, l'intention en elle-même ne suffit pas pour soit une louange, soit une condamnation. Et de la même manière que, sans doute, que certaines idéologies, comme évidemment le fascisme, le nazisme, ou même à l'inverse, hein, le communisme ou l'antifascisme même, certaines idéologies sont violentes, voire génocidaires en puissance, eh bien, tant que les personnes qui adhèrent à ces idées n'ont commis aucun acte répréhensible et que ces idées restent dans le cadre pur des idées, en fait, à aucun moment on peut condamner. On peut même appeler à la mort de quelqu'un pour ça. Et simplement aussi, je voudrais juste rappeler un dernier point, parce que vous m'avez posé beaucoup de questions d'un coup. Vous parliez effectivement de Charlie Kirk, beaucoup de gauchistes se sont réjouis de sa mort, exactement, comme pour Quentin, tout à fait. Je rappelle qu'il y a eu des scènes absolument abjecte de liesse à la mort de Jean-Marie Le Pen en France, déjà, où des gens se sont réunis, place de la République, mais même à beaucoup d'autres endroits en France, pour déboucher du champagne et fêter la mort de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen qui, encore une fois, a priori, n'a commis aucun crime de masse ou quoi que ce soit, et même, j'ai envie de dire, même s'il y a certains litiges sur ses actions en Algérie, ça n'a jamais été tranché de près ou de loin, ou quoi que ce soit. D'une certaine façon, il y a quand même, je trouve, chez la gauche, une forme de culture de la réjouissance de la mort au nom de... Ah oui, on se serait réjoui de la mort d'Adolf Hitler. C'est-à-dire, à partir du moment où on se réjouit de la mort d'Adolf Hitler, en fait, on a le droit de se réjouir de la mort de toutes les personnes qu'on considère comme fascistes. Et alors, dans mon article, je développe longuement, je vais pas le faire ici, parce que cela sera-t-il long.
En l'occurrence, vous avez et le temps et le loisir, cher Alexandre.
Non mais...
Parce que d'ailleurs, je le précise... certains auraient pu être parmi nous et malheureusement sont retenus pour des raisons.
Ouais, j'ai cru que vous aviez parlé de disparition tragique.
Non, pas du tout. J'allais dire de bonnes raisons, mais pas tant que ça en réalité. Donc, on les embrasse, mais en l'occurrence.
Pas tellement. Non, on les condamne et on se rend sur place.
Ah, on se rendra pas sur place pour les voir.
Oui, mais on les condamne à distance et on crée un numéro vert au cas où. Dans le fond, sur ces histoires de Sienne de Liesse, en fait, dans le fond, il y a une extension du domaine du terme fasciste de manière générale, où évidemment que le fascisme de, De Gaulle, qu'on qualifiait déjà de fasciste à l'époque, est mille fois plus à droite qu'une Marine Le Pen ou même qu'un Éric Zemmour ou que beaucoup d'autres aujourd'hui. Peut-être pas Éric Zemmour, pardon, mais de manière générale, il y a quand même un glissement de ce terme, un glissement sémantique. Une mise à égard... En fait, c'est un phénomène qui se déroule en plusieurs étapes. Un, on considère que une partie de la population est fasciste. Deux, on considère que les fascistes sont des génocidaires en puissance. Trois, on considère qu'un génocidaire en puissance doit être éliminé en amont. Et quatre, on l'élimine. Merci, c'est tout pour moi.
Bah écoutez, merci pour cette émission, chers auditeurs de Radio Free, je vous remercie de votre écoute. Non, alors écoutez, plusieurs choses, alors quelques petits chiffres sur le procès, justement, sur l'après-guerre et après la Seconde Guerre mondiale. 24, à Nuremberg, 24 principaux dirigeants nazis inculpés, 22 jugés, avec deux cas particuliers, 12 condamnations à mort, 10 par pendaison, le 16 octobre 1946. Alors et après, il y a eu quand même un suicide, celui de Göring, la veille de son exécution. Et Martin Bormann est condamné à mort par contumace. Et après, si on continue, en gros, on est sur à peu près une vingtaine d'exécutions.
Après, c'est difficile d'estimer du côté soviétique, parce que forcément,
oui,
les chiffres sont
truqués.
Sur le strict procès de Nuremberg, voilà, on est sur une vingtaine de condamnations.
10 morts.
10 morts, voilà. Donc, ce qui est quand même.
Mais alors, cher Alexandre, puisque vous lancez ce débat-là intéressant sur le continuum en réalité de violence de la gauche, et en fait, c'est une rhétorique qui, pour leurs troupes, semble assez dure à contester, puisqu'ils ont réussi à s'auto-convaincre en réalité de combattre des fascistes, et eux ont l'impression d'œuvrer peut-être pour une forme de bien commun, qui serait celui d'empêcher un retour des heures les plus sombres de notre histoire. Avec, et d'ailleurs, et on en parlera sur la partie du volet médiatique de l'affaire Quentin, une défaite, je pense, morale de la gauche qui, à force d'avoir traité, vous l'avez rappelé pour De Gaulle, mais on pourrait le dire pour Darmanin, qui est un ancien gauchiste.
De fasciste, pardon.
De gauchiste. J'ai dit
ça,
gauchiste.
C'est, ça, c'est pour vous, ça.
Ah, c'est ça. J'ai dit gauchiste, pardon. Ça, c'est plutôt mon vocabulaire à son encontre. Mais si je vous prends une anecdote assez amusante, il se trouve qu'il y a quelques mois, je débattais.
Faites-moi rire, c'est ça.
Amusante, de là à dire qu'on va se poiler, c'est pas monde, hein. Je débattais avec le président des jeunes communistes, dont le nom m'échappe à l'instant, à Swan, mais son nom de famille m'échappe.
Ah, c'est pas celui qui s'était présenté...
Léon Desfontaines.
Oui, Léon Desfontaines.
Non, Léon Desfontaines n'est plus président des jeunes communistes, je me retrouve sur une radio concurrente à débattre avec...
Déjà que vous vous retrouvez sur une radio concurrente, Stanislas...
C'est très grave. Oui. Je demande 3 fois pardon. Et le débat se passe de façon correcte. Les communistes sont aujourd'hui plutôt civilisés dans les joutes verbales, globalement. Et on est quelques jours avant la fête de l'humanité. Et sortie d'émission, nous nous retrouvons à discuter en partant. Et je lui demande comment se prépare la fête de l'humanité. Ce à quoi il me répond, c'est un peu compliqué puisque j'ai mon sujet de trouver ma... et d'assurer ma protection. grand étonnement de ma part, donc je lui réponds, mais fête de l'UMA, c'est la fête du Parti communiste.
Oui, fête de l'humanité, c'est littéralement le journal de l'humanité.
C'est exactement payé par les deniers du Parti communiste, un petit peu par l'État également, mais bon, qu'importe.
Oui, par l'État, donc par le Parti communiste.
Exactement, tout à fait. Et il me dit, oui, non, une protection, parce que sur place, on peut être menacé. Je lui réponds, vous n'avez quand même pas peur de pseudo-milice fasciste qui viendrait devant 30 000 gauchistes tenter le coup de force, le coup de poing. Et après, non, pas du tout, c'est par les militants de la France insoumise ou les excités de la Jeune Garde qui, parce qu'à l'époque, il avait pris position, et là, c'est quand même assez lunaire, contre les abbés intégristes et les imams radicalisés, et qu'il en avait fait part dans une tribune dans Marianne, s'était retrouvé menacé de mort, non pas par des catholiques intégristes, mais par des militants de la France insoumise, qui lui expliquaient que comparer des imams à des abbés intégristes était absolument scandaleux. Et depuis, alors qu'il est à la tête du mouvement jeune communiste, il se retrouve sous protection du PC.
On peut même plus être un bouffeur de curry tranquillement dans ce pays.
Mais,
quoi.
Je ne sais pas si on se rend compte que Fabien Roussel et les jeunes communistes se font littéralement humilier dans leur propre soirée.
Mais même on peut se rappeler très simplement de François Ruffin
face à Raphaël Arnaud, justement.
Bien sûr, qui se fait huer, conspuer par toute la foule en face de lui, au prétexte qu'effectivement, parce que lui souhaite, pour le coup, se revendique comme étant réellement de gauche, mais souhaite parler à l'électorat RN pour le convaincre de revenir à gauche.
Et puis,
rien que le fait de vouloir parler à un électorat RN pour le convaincre de venir à gauche est déjà une porte d'entrée vers le fait d'être de ne plus être de gauche déjà. Et alors après, évidemment, moi il faut rappeler quand même l'œuvre désastreuse de Joan Chapoutot sur effectivement tout ce travail là où c'est un brillant historien, ça ne fait aucun doute. En revanche, comme politologue, il est
minable,
oui, c'est un excellent mot, où effectivement toute sa rhétorique du centrisme comme porte d'entrée vers le fascisme mène évidemment à considérer qu'à partir du moment où des personnalités comme Raphaël Glucksmann, Jérôme Gage, même François Hollande ou d'autres sont à arranger dans la case du centrisme, forcément ils sont des portes d'entrée eux-mêmes vers le fascisme. À partir du moment où, même d'ailleurs, de manière générale, on est bourgeois, on défend la bourgeoisie, effectivement, on peut devenir in extenso une porte d'entrée vers le fascisme. Alors, on peut avoir beaucoup de discussions sur le fait que la bourgeoisie se range toujours du bon côté, ça ne fait aucun doute, mais l'amalgame permanent de tout le monde au fascisme, et encore une fois,
oui, mais là, cet amalgame est d'autant plus grave. C'est pas tant une lutte des classes. Aujourd'hui, c'est pas une lutte des classes.
Oui, bien sûr, mais cet amalgame est d'autant plus grave.
Ils luttent même plus contre le bourgeois.
Non.
Ils font même plus semblant.
Mais non, ils luttent contre le bourgeois parce que le bourgeois se range du côté de l'extrême droite. En fait, c'est ça cette rhétorique. Et encore une fois, je rappelle que la rhétorique finale, ça reste un fasciste, une balle.
Oui, sauf que là où je suis pas. Je suis pas d'accord.
Vous êtes d'accord. Arrêtez de créer des fausses oppositions.
Je suis pas tant d'accord au sens où la Jeune Garde, comme les milices d'extrême gauche, les proches de la France Soumise, ont leur rhétorique sur les milliardaires classiques, mais globalement, leur axe d'attaque n'est pas de tuer le bourgeois.
Non,
mais contrairement à une époque où il y avait vraiment une lutte contre du prolétaire, contre le bourgeois, et pour une égalité totale des revendications sociales, aujourd'hui, ils tuent au nom de l'antifascisme, évidemment, mais aussi et vraiment autour de la guerre identitaire. Et je crois que c'est ça qui est quand même passionnant. Et là où il faut rentrer dans le détail, et c'est là la gravité de la France Insoumise et de la Jeune Garde.
J'aurai un nouveau débat à ouvrir après. Mais oui.
Vous êtes à 17 minutes de temps de parole, cher Alexandre, et moi à 2,5. Donc je me permets juste, dans ma propre émission, où je n'ai qu'un seul invité, de finir une phrase. Non, mais je vais vous redonner la parole, parce que c'est vous qui êtes intéressant ce soir, cher Alexandre.
Oh, dites pas ça.
Vous avez raison, je ne vais pas le dire.
Retirez vos propos tout de suite.
Je retire mes propos immédiatement. Je condamne d'ailleurs ceux d'Alexandre. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que non seulement ce sont des pseudo-antifascistes qui luttent contre des... Il y a un côté très Don Quichotte dans tout ça, contre des moulins à vent. Mais en plus de ça, il y a un vrai côté traître à la nation de la part de ces gens-là, qui sont tous, eux, des enfants de bourgeois, pour reprendre l'expression de Marine Le Pen à Sciences Po à l'époque, où ils s'appellent Jacques-Élie, Blandine, alors qui n'était pas là, mais qui est dans le groupe, Marie-Hélène, Raphaël, ou je ne sais quoi. Ce ne sont que des petits bourges, en réalité, et encore une fois, soyez-en assurés, chers auditeurs, je ne me range pas du côté de la lutte des classes, et je considère qu'un bourgeois peut parfaitement aider le peuple et son prochain, tout comme un prolétaire peut être absolument atroce, égoïste et méchant, et vice-versa, bien entendu. Mais c'est vraiment au nom de cette lutte identitaire que se passe ce combat-là, et plus du tout, d'ailleurs, je serais très intéressé, mais je crois que, sans prendre trop de risques, que la famille de Quentin de Ranque est bien moins bourgeoise que les familles des Raphaël Arnaud et des Péruviens,
etc. Ce qui est quand même pas... Mais au-delà de ça, ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de dire, Sanizade, d'ailleurs, ce que vous dites de manière générale est passionnant, mais ce qui l'est encore plus, si tant est que ce soit possible, dans ce que vous dites, c'est que il y a un vrai problème de définition sur, effectivement, déjà ce qu'est le fascisme, on en a parlé, mais même sur ce qu'est la gauche. C'est-à-dire que la gauche se vit comme, effectivement, la défenseur des prolétaires, se vit toujours comme la défenseur du plus pauvre, etc. Rappelle que, évidemment, la plupart des ouvriers votent, plus de 50% des ouvriers votent aujourd'hui pour le Rassemblement National. Mais au-delà de ça, parce qu'elle s'est trouvée ce prolétariat, bon, c'est pas une grande analyse, mais parce qu'elle s'est trouvée ce prolétariat de substitution, en fait, elle va pas embrasser la lutte de ce prolétariat de substitution de manière sociale, mais effectivement de manière identitaire. Et c'est là que j'en viens à un nouveau point sur lequel moi-même j'aimerais avoir votre avis, cher Stanislas. Le Conseil d'État vient aujourd'hui de classer la France Insoumise comme un parti d'extrême gauche, d'ailleurs comme il vient de classer l'UDR comme un parti d'extrême droite. Est-ce que ça veut dire que le Conseil d'État lui-même a pris d'une certaine façon en compte le fait que le paradigme politique avait vraiment changé aujourd'hui?
Alors, c'est amusant parce que je voulais, et je vais vous répondre, lancer parmi les sujets qui seront intéressants à traiter le traitement médiatique, même si je pense qu'il a été plutôt analysé et assez justement ces derniers jours, aborder une question assez sympathique, mais à la fois dramatique, qui est quel rôle merveilleux que celui d'être centriste. Notamment dans cette période où la position de centriste doit être absolument formidable.
Gabriel Attal disait aujourd'hui, l'extrême droite et l'extrême gauche sont responsables de violence, jamais l'extrême centre.
Exactement, et donc quelle merveille de pouvoir donner des brevets de respectabilité, de tourner sur soi, de pouvoir regarder à sa droite, à sa gauche, de ne voir se fier absolument rien de rien, c'est-à-dire que des violences, même au sein, si on rentre dans le détail du camp macroniste, que ce soit Benalla qui cogne alors que le type est à l'Elysée.
C'est une violence d'État. Enfin, je veux dire, les Gilets jaunes sont une violence d'État, en l'occurrence.
Exactement, qui sont responsables au pouvoir depuis 30 ans aujourd'hui, et pendant les Gilets jaunes, la réforme des retraites, les émeutes, ils sont responsables indirectement par leur inaction des violences de ce pays. Donc, quel confort d'être centriste.
Mais même de manière générale, on pourrait aller plus loin en disant que le centre porte une responsabilité dans l'affaire Quentin. Aussi, justement, en n'ayant absolument pas pris les mesures nécessaires pour lutter contre les antifas.
Et on s'est allié avec. Alors, on va pas rappeler ce qui a été dit sur d'autres plateaux, sur les alliances de Gabriel Attal, d'Edouard Philippe, avec la France Insoumise, ou en tout cas en ayant des consignes de vote pour voter pour eux. Et d'ailleurs, c'est amusant, je me suis retrouvé avec une analyse de centriste qui est absolument merveilleuse, qui dit au premier tour, on s'est assuré que le RN ne puisse pas avoir les... Au second tour, si on s'est réuni avec la France Insoumise, c'est parce que nous étions sûrs pour être sûrs de ne pas avoir une majorité RN. Et qu'on s'est dit, il vaut mieux 80 députés LFI que 279 ou plus 1 du Rassemblement National. Donc les types assument vraiment d'avoir fait alliance avec des personnalités dangereuses juste pour le simple fait d'empêcher une majorité au Rassemblement National. Et là où je veux en venir, c'est que ils pourraient
dire... C'est 289.
289, pardon. Ils sont dans cette logique-là qui est absolument ridicule de donneur de leçons. Et je crois même qu'aujourd'hui, ils seraient capables. Et d'ailleurs, Manuel Valls dit maintenant, c'est nini entre LFI et RN. Aurore Berger, Gabriel Attal, le cornu toute la journée après la phrase de Mélenchon, Epstein, sont vent debout. Mais ils l'étaient déjà le 7 octobre 2023. Ils l'ont été après les émeutes de Naël. Ces gens-là sont des menteurs. Mais je vais vous répondre sur le Conseil d'État, parce que je n'ai pas oublié votre question. Moi, je suis absolument choqué qu'une institution d'État censée être, dans le cas du Conseil d'État, une autorité morale, judiciaire, avec un impact significatif auprès de la population, mais surtout auprès, évidemment, des autorités et des services de l'État, puisse se permettre de qualifier politiquement des opposants. C'est-à-dire que...
Même pas forcément des opposants, d'ailleurs, en fait.
En l'occurrence, c'est là où on y vient. C'est justement, si ce ne sont que des opposants qui sont catalogués, si demain on me disait, oui, Attal est considéré d'extrême-centre, Oui, Attal est considéré comme un progressiste. Je dirais, bon, bah après tout, le Conseil d'État est arbitraire, mais le fait pour tout le monde. Mais, pardon de le dire, mais Marine Tondelier, qui s'est alliée avec la France Insoumise, qui a, avec son parti, eu des formations du service d'ordre de la Jeune Garde, pourquoi Marine Tondelier n'est-elle pas considérée comme d'extrême gauche? Pourquoi, quand sur la question sécuritaire ou identitaire, dans le discours, je ne vous parle pas dans les actes, ou
Oui.
dans les réactions, pourquoi Bruno Retailleau n'est-il pas considéré comme d'extrême droite? Quand le Rassemblement National ou Reconquête dit qu'il faut interdire le voile. Très bien, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est une position politique. Mais quand Bruno Retailleau le dit aussi, est-il d'extrême droite? Et que des adversaires politiques entre eux s'invectivent et se qualifient, c'est le début, c'est la guerre politique, la bataille de la sémantique, d'expliquer qu'un tel est d'extrême-ci, d'ultra-ça, absolument mou sur tel ou tel sujet, c'est une chose. Et moi, vous voyez, je considère presque. Pour être franc avec vous,
Soyez français,
non, non,
Sas.
mais je veux dire, je ne suis pas. D'ailleurs, on y viendra, ce sera aussi l'un des objets de discussion, mais que la France insoumise traite le Rassemblement national, Reconquête d'extrême droite, honnêtement, je
Oui.
pense que ça n'a que très peu d'effet. Et on en parlera tout à l'heure sur les mots qui se sont vidés de sens et qui, paradoxalement, ont permis, je crois, qu'une grande majorité de Français se soit tournée. Évidemment vers la famille de Quentin et vers ses proches, parce que justement, à force de qualifier tout le monde de nazi, on en finit vraiment par perdre tout sens des mots. Alors que le Conseil d'État, en tant qu'institution, se permette de qualifier des adversaires politiques, c'est absolument ridicule et honteux. Et encore une fois, Éric Ciotti, en termes de position, si on prend l'exemple de Ciotti qui est qualifié d'extrême droite, j'allais dire qu'a-t-il d'extrême droite? Mauvais argument. Mais qu'a-t-il changé dans son discours de fond? Et idéologique par rapport à son
Oui, non,
position
mais
de président des
la
Verts.
seule chose qui
S'il
a
est changé
changé,
de
c'est qu'il s'est
stratégie,
allié, oui, c'est ça, c'est qu'il s'est
exactement,
allié
mais.
au Rassemblement national, mais c'est vrai qu'en termes de discours.
Et d'ailleurs, il faut le dire, parce qu'on tape évidemment aujourd'hui très fort sur l'extrême gauche et sur Mélenchon, parce qu'encore une fois, moi je considère que Mélenchon est d'extrême gauche. Mais la défense de la France insoumise est très intéressante et paradoxalement quasi, j'allais dire, noble. C'est pas le moment de leur tresser des lauriers, mais la réponse de Bompard est de dire mais attendez, il y a une vraie extrême gauche dans ce pays. L'extrême gauche avait pris le pouvoir par la révolution, par la rue, et c'est respectable.
Mais
Et
vous
il le
voulez que je vous
dit,
dise?
et je finis là-dessus, parce qu'il le dit, il dit, et c'est respectable, et nous pouvons parler avec l'extrême gauche, mais ce n'est pas notre mode d'action. Et le mode d'action de la France insoumise, c'est de gagner le pouvoir par les urnes. Et c'est marrant parce que quand on parle avec un type au bar et qu'on discute, et qu'on lui dit vous êtes d'extrême droite, et qu'on lui demande une définition, c'est souvent compliqué. Mais l'une des définitions très classiques et très courantes de ce qu'est l'extrême droite, c'est l'antiparlementarisme, le refus des urnes. Et le retour et la prise de pouvoir par la force.
Je vais vous faire plaisir, Stanislas, pour une fois.
Bon, ça fait deux fois ce soir, donc allez-y.
Mais écoutez, c'est le soir des petites faveurs. Vous savez qui était
C'est pas
ce.
parce que nous sommes que tous les deux sur le plateau qu'il n'y a personne pour nous écouter.
Alors, oui, il y a quand même quelqu'un à la technique qui nous regarde,
On
donc on
salue
va.
évidemment la régie qui nous permet d'organiser cette émission,
Oui.
mais que nous ne sommes pas le 14 février, cher
Oui,
Alexandre. Attention au dérapage.
non, non, mais je vais essayer de me contenir pour une fois. De contenir mes émois, hein. C'est simplement que la personne qui tenait ce discours, en l'occurrence, pendant plusieurs années, c'était Éric Zemmour. Lui-même avait ce discours très précis d'expliquer que lui n'était pas d'extrême droite, pour une raison simple, c'est parce que l'extrême droite, c'était l'antiparlementarisme, c'était l'Action française, c'était le rejet de la République, c'était, on va dire, pour faire simple, l'OAS. C'était effectivement des mouvements comme l'Action française avant la guerre et puis et d'autres encore. Remettez-vous, Stanislas, je vais parler pour vous laisser le temps d'éternuer, mais à vos souhaits et que Dieu vous bénisse. Mais effectivement, la qualification d'extrême gauche a été effectivement définie tout à fait correctement. Mais d'ailleurs, il y a une vidéo de l'ignoble vidéaste pornographe Usul à ce sujet il y a environ 2 semaines sur ce qu'était l'extrême gauche. Ce qui est dommage, je trouve, c'est que la droite nationale se soit pas elle-même appropriée de manière globale, un discours qui permette, elle aussi, pour elle aussi, de rejeter ce qui était l'extrême droite. Après, d'autres prennent le parti aujourd'hui de ne plus avoir de complexe à se revendiquer comme étant d'extrême droite, Je sais pas si c'est une stratégie qui paye dans le fond, mais on sait qu'aujourd'hui, je crois que 20% ou 30% des électeurs RN se définissent eux-mêmes comme étant d'extrême droite.
Et avec trois éléments là-dessus très intéressants. La première, le premier, pardon.
Que d'éléments.
C'est dans les sondages. Ce qui est intéressant, c'est quand on sonde les gens, il y a toujours une marge d'erreur. C'est pour ça qu'on dit que les sondages sont redressés. Parce qu'évidemment, au téléphone, ou quand vous êtes sondé sur Internet, vous avez quand même plus de mal à dire que vous êtes extrême que de droite ou quoi que ce soit. Le deuxième élément, qui est très intéressant, et c'est la différence, encore une fois, majeure entre le Rassemblement National...
Qu'est-ce qui vous arrive,
c'est peut-être le retour du pollen.
Eh bien, parlons-en.
Parlons-en. Petite minute écolo. Non, mais très intéressant, parce que la différence majeure de cette séquence, elle est justement dans le fait que l'on croit sincère les acteurs et les élus du plan national ou pas, on les croit sincères, honnêtes, ils condamnent à chaque fois, sans réserve, toute forme de violence. Qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, qu'elle soit dans les urnes, ils condamnent toute forme de violence, les résultats des élections sont toujours acceptés, et personne, aucun leader du plan national, aucun, depuis 30 ans, n'a jamais dit autre chose. Même d'ailleurs, j'ai dit depuis 30 ans, mais depuis, depuis la création de la 5ème République. Et c'est là où je veux en venir, c'est que la gauche, elle, et notamment la France Insoumise en l'occurrence, non seulement revendique une proximité avec l'extrême-gauche, en se distinguant de l'extrême-gauche, mais en se distinguant avec eux, il intègre l'extrême-gauche et sa frange la plus radicale, et dans son camp, mais surtout permet donc cette dissociation qui explique une donnée idéologique, à savoir, nous sommes une gauche qui veut prendre le pouvoir par les urnes, quand l'extrême-gauche, la vraie, que l'on respecte, elle veut le prendre par la force. Sauf que là où l'extrême droite, ou en tout cas ce qui est qualifié tel quel par les médias, ne peut pas faire ça, c'est puisque les groupuscules à sa marge ne sont pas acceptés par le clan national, ils ne peuvent pas avoir cette rhétorique-là en expliquant qu'il y a ce distinguo. Parce que l'accepter, c'est rentrer déjà dans des débats idéologiques qui pourraient leur causer du tort. Et donc accepter l'idée que le clan national les
prétend. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que la négation de l'existence presque de ces.
De l'extrême droite.
Oui, de cette vraie extrême droite, donc, fait que nécessairement l'extrême droite se replace à l'extrême droite.
Exactement. Oui. Parce que dire qu'elle n'existe pas, c'est en disant que l'extrême droite n'existe pas, c'est nier, et des courants, mais qui d'ailleurs. Des militants, mais attendez, beaucoup de militants politiques. Et après, j'irai sur le dernier élément qui est, je crois, très intéressant.
Et vous moucher aussi, c'est
ça. Je vais essayer d'aller moucher doucement, et c'est pour ça qu'on fera un interlude musical dans quelques instants. Mais des militants politiques de groupes nationalistes se revendiquent parfaitement, soit d'extrême droite, soit ultranationaliste, soit réactionnaire, royaliste, etc.
Et moi, je vais vous dire, moi-même, j'ai pas de souci à me revendiquer comme étant d'extrême droite. Hein, de manière générale, c'est pas un terme que je trouve odieux.
Bah, en fait, alors là, je vous ouvrirai un autre sujet, cher Alexandre, mais il y a l'extrême droite idéologique et il y a l'extrême droite stratégique.
Oui.
Quand
je
dis stratégique, c'est le positionnement par rapport à une donnée politique, à un instant T. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, le RN, par la force mécanique des choses, est moins à droite que Reconquête, est moins à droite, par exemple, que l'UDR, si on considère, par exemple, que la donnée économique et libérale peut rentrer en compte, ou à l'inverse, on peut considérer que c'est la question identitaire qui prime, et dans ce cas-là, le RN est peut-être plus à droite que la Macronie, mais que si demain, le RN Reconquête et l'UDR s'arrêtaient, bah, les Républicains, par essence, deviendraient le parti le plus extrême sur sa droite. Et c'est là où il y a une question stratégique, là, cette logique stratégique, vous avez compris, c'est une question de positionnement sur un spectre, quand il y a la question idéologique. Là, on peut avoir un débat de 2 heures, de 3 heures, alors pour le coup, il pourrait vraiment tenir longtemps, sur ce qui est anthropologiquement l'extrême droite, ce n'est pas évident. Mais mon troisième élément était justement de pointer ce décalage de génération, où une génération des plus de 40 ans, notamment parce que ancien électeur de Sarkozy ou convaincu un temps par Chirac ou Fillon, réfute le terme d'extrême droite et le vomit, et pour de bonnes raisons, puisque pendant longtemps ils les ont combattus, quand dans la jeune génération, le terme facho extrême droite n'est quasiment pas un sujet. Et quand on regarde les réseaux sociaux, c'est absolument sidérant, beaucoup de types se revendiquent, ouais, on est facho, on est d'extrême droite, vive l'extrême droite, etc. Mais de façon... Non, pas idéologique, mais décomplexé, et surtout, à force d'avoir entendu tout au long de sa vie que même Darmanin était d'extrême droite, on se dit, en fait, c'est un qualificatif.
Et d'ailleurs, ça, c'est un truc, un point très simple, qui a déjà été largement commenté, mais dans le fond, Giorgia Meloni était quand même qualifié de néo-fasciste par la quasi-intégralité du spectre politique qui commence du centre-gauche, donc de Gabriel Attal, jusqu'à l'extrême-gauche. C'était du néo-fascisme. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une politique qui est probablement...
Le droit conservatrice.
Oui, de droite conservatrice, qui n'est pas très éloignée sans doute de celle de Silvio Berlusconi en son temps, qui effectivement, de manière mécanique, est qualifiée, enfin, Giorgia Meloni se positionne à l'extrême droite, mais c'est là que d'ailleurs la
Il a plus
gauche... Non,
maintenant
mais
d'ailleurs, vous avez vu ce qui se passe en Italie.
Pour finir, c'est là que la gauche, de toute façon, se prend les pieds dans le tapis. C'est que, comme vous dites, à force... d'ouvrir le spectre de l'extrême droite à partir de Darmanin, à partir d'Emmanuel Macron, à partir de d'autres personnalités similaires, jusqu'à d'ailleurs d'apposer un signe d'égalité avec de vrais nazis qui existent encore une fois par quelques centaines aujourd'hui en France. Effectivement, les gens ne croient plus à la fable et d'ailleurs on ne compte plus les fois où on sort simplement de Paris et on va discuter avec des gens qui nous disent « Ah oui, mais bon, ça, ils disent que c'est facho. » Comme ils disent, même d'ailleurs, extension du domaine du racisme, même problème. Extension du domaine de chacun des mots. Évidemment qu'à partir du moment où un mot a un sens bien trop large, eh bien, en fait, il faut... il ne veut plus... il n'apporte plus rien de précis
Et
en
ce qui est
termes
très
de
intéressant, c'est que...
sens. Et donc, il est dévalué.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'en Italie, justement, Meloni qui
Une
est...
inflation linguistique, on pourrait dire.
C'est très joliment dit, cher
Merci,
Alexandre.
Osnesos.
Mais ce qui est très intéressant, c'est
Non, vraiment,
qu'en...
merci.
Oh, je vous en prie. En Italie, pendant... Vous vous en souvenez, Salvini était l'incarnation de cette extrême droite, plutôt populiste, puis dépassé par Meloni qui l'a rattrapé vite assuré en V, puis dépassé, puis battu, et est incarné, et incarné une forme de néofascisme conservateur. Civilisationnellement chrétien et plutôt libéral. Et désormais, depuis que Meloni est au pouvoir, celle qui était considérée pendant longtemps en effet en France par les observateurs internationaux comme une personne extrême droite, se fait elle-même rattraper dans son propre pays
Bien sûr, par
par Renacci,
Renacci,
exactement, qui lui aujourd'hui passe pour le candidat évidemment d'extrême droite ou la menace réellement fasciste. Et là, c'est là où on se rend bien compte justement de toute cette ambiguïté de savoir comment on est. Fini l'extrême droite, est-ce que c'est sur une ligne idéologique ou sur une ligne stratégique, encore une fois sur un spectre. Chers auditeurs, j'allais dire camarades de Radio Courtoisie, je vous propose un petit interlude musical autour d'une musique, d'une chanson qui s'appelle Les Partisans Blancs, que certains connaissent sûrement, et qui justement rappelle la lutte contre les trotskistes.
Bataillon blanc, la belle des Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Amis auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir de nouveau. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission de prolongation. Votre émission bimensuelle que vous pouvez retrouver le vendredi de 21h30 à 23h sur Radio Courtoisie. Cette émission, je la fais en compagnie d'Alexandre Galzin, que vous connaissez bien, ami auditeur de Radio Courtoisie, puisqu'il vous accompagne tous les matins dans la matinale de Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie, qui cartonne évidemment en ce moment avec des audiences records et une présence impressionnante, et sur le terrain, sur les médias sociaux et Internet. Et nous parlions du traitement de l'affaire Candin d'un point de vue historique, politique, mais aussi au niveau de ce camp central qui, depuis le début de cette affaire, alors qui, rappelons-le pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui n'ont pas connaissance de ce drame, Candin, c'est ce jeune homme de 23 ans, militant nationaliste et catholique, lynché à mort par des miliciens d'extrême gauche proches de la Jeune Garde ou appartenant à la Jeune Garde, l'enquête dira, proche donc de Raphaël Arnault, le député de la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, qui ont tué Candin jeudi dernier à Lyon et dont les obsèques ont eu lieu ce mardi dans la plus stricte intimité. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à prier pour sa famille, pour le salut de son âme et son repos. Candin, qui avait la vie devant lui et qui lui a été enlevé pour des raisons politiques par la lâcheté de certains militants d'extrême gauche qui, à 15 contre 3, lynchèrent ce jeune homme. Et j'en profite également pour avoir une pensée pour ses amis qui ont été d'un courage, d'une dignité assez incroyable tout au long de ces jours passés, en gardant la tête haute malgré les insultes, les critiques et les calomnies qui ont été jetées à l'encontre de Candin, notamment venues évidemment de la France Insoumise qui s'est illustrée par son cynisme, sa méchanceté, sa haine. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup ont réalisé que le combat qui s'ouvrait devant nous n'était pas simplement un combat électoral, mais était également un combat civilisationnel, peut-être qui tendra dans les prochaines années à un mano à mano entre eux et nous, et que si certains ont été encore, les jours qui viennent de s'écouler sont aujourd'hui parfaitement illustratif des conséquences des collaborateurs anti-France qui sévissent dans ce pays depuis des années. Mais en parlant de ces personnes qui sévissent depuis des années, un camp sévit depuis des années, c'est ce bloc central, ce fameux bloc central, ce cercle de la raison, comme le disait Alain Minc, ces personnes qui distribuent les bons points au gré de leurs humeurs, au gré des polémiques, au gré des actualités, et surtout au gré des élections qui approchent. Et aujourd'hui, l'extrême-centre, le bloc central, la Macronie, a décidé que la France insoumise, c'était très très mal. Et puis, au cours de ces jours écoulés, on quand même, et c'est important, rappelé que l'extrême-droite, ce n'était pas très bien non plus.
Oui, parce que la priorité, évidemment, c'était de répondre en plus de... Bon, évidemment, c'est l'extrême-droite qui a quelque part une perte sur ces derniers jours, et évidemment il fallait pas oublier de taper dessus au cas où pour rappeler qu'on était bien centriste. Je rappellerai quand même que Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur et ancien préfet de police de Paris, a déclaré de son côté qu'il allait étudier la dissolution du collectif Némésis.
Dangereuse parmi les plus dangereuses.
Ah bah oui, c'est-à-dire qu'évidemment des femmes de 50 kilos qui viennent en manifestation pour aller tendre des pancartes, c'est sans doute ce qui menace le plus aujourd'hui la France.
Ça commence par des mots et des bouts de carton.
Oui, et ça finit par des mots et des bouts de carton.
Très souvent, oui.
Oui, c'est souvent ce qui se passe. Mais effectivement, voilà, c'est ce qui est censé être la grande menace. Sans doute Laurent Nunez a-t-il écouté Jean-Luc Mélenchon qui expliquait que Némésis agressait la France.
Ah, vous êtes dur avec Laurent Nunez, honnêtement. Sur la réponse qu'il fait à Pano.
Oui, non, honnêtement, oui.
C'est à Polvani ou à Pano, je sais plus.
Je sais plus, mais oui, effectivement.
Ah, je trouve que honnêtement, Pano, Nunes fait de la politique à deux balles.
Oui.
Mais globalement, il explique gentiment que.
Oui, non, mais en fait.
Le délire de la France Insoumise ne sera pas pris en compte.
Oui, mais d'un côté, il dit qu'il va quand même étudier le sujet parce qu'effectivement, faut donner un gage, mais dans le fond. On se doute que évidemment les centristes vont en profiter. Et c'est là qu'on va rentrer dans le cœur du sujet, Stanislas.
Alors attention, il y aura d'abord une pub. Je vous invite à rester là. On va parler de ce sujet dans quelques instants.
Ouais, alors allez-y. La pub pour Nexus. Nexus, excellente nouvelle structure. Je tousse, hein, j'arrive pas à le dire tout à fait correctement. Mais non.
Merci. Alexandre, là, ça me fait très plaisir. C'est naturel, hein, c'est.
Mais plus sérieusement,
allez, 40 minutes. On entendait
Gabriel Attal ce matin expliquer que l'extrême droite et l'extrême gauche, elles deux, commettaient des violences, renvoyant les extrêmes dos à dos. J'étais presque déçu de ne pas entendre parler de tenaille identitaire.
Ah, il l'a pas employé.
Non, mais j'ai envie de dire, le printemps républicain n'existe plus trop, mais l'esprit. L'esprit est toujours là, et d'une certaine façon, oui, évidemment, expliquer que le centre, c'est la modération, donc le centre n'est pas capable de violence, donc le centre est nécessairement ce qu'il y a de moins dangereux, évidemment, tout ça sans occulter l'intégralité. Alors certes, il faut admettre que des militants centristes violents, ça n'existe pas. Même d'extrême-centre, j'ai envie de dire violent de manière politique, de près ou de loin.
Mais connaissez-vous le livre d'Abel Bonnard, Les Modérés?
Non, mais je m'attendais pas à avoir cité Abel Bonnard d'un coup, mais l'escalade est rapide, mais dites-moi.
Mais Abel Bonnard, on peut peut-être, sauf si vous voulez le rappeler à nos auditeurs, qui est Abel Bonnard, qui est un auteur aussi des années de guerre mondiale, qui a été très largement critiqué par la suite pour certaines de ses prises de position, mais qui a écrit ce livre qui s'appelle Les Modérés. C'est un excellent livre, et à travers ce livre, il parle notamment de cette corrélation. Il l'explique en quelques mots, hein, ce n'est pas que ça, ce livre, évidemment. La corrélation entre les traits de caractère et les positionnements politiques. Et en gros, je vous la fais très simple, mais c'est un peu de dire bah, vous êtes quelqu'un de radical dans la vie parce que vous êtes quelqu'un de capable de vous emporter, d'être extrêmement franc, d'être parfois même colérique. Bon, ça vous amène plutôt à vous tourner vers des extrêmes. Quand le centriste, lui, par nature, est modéré. Mmh. Et donc, quand on lui pose une question, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, ni une ni deux, je t'embrouille.
Il fuit le conflit.
Conflit et ce n'est pas dans son ADN. Voilà, parce que je pense que c'est quand même assez intéressant. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, les Barnier, Bayrou, Cazeneuve, etc., incarnent parfois, certains avec élégance, une forme de hauteur et dissimulent leur mollesse par cette soi-disant, justement, hauteur. Mmh. C'est-à-dire que la hauteur n'est pas une hauteur de prise de vue, c'est une hauteur pour estiver un débat de fond qui pourrait leur déplaire ou qui pourrait les contraindre à prendre des positions qui ne sont pas aisées à prendre. Et je pense que c'est tout le lot du centriste, et le bon centriste arrive toujours à sortir d'un débat, non pas sur le fond, mais par une forme de condescendance qui l'amène à dire « c'est plus compliqué que ça ». Et je pense qu'il faut nous extirper des pièges des extrêmes.
Alors ça, c'est tout à fait juste, je vous rejoins absolument là-dessus, c'est Islas. D'ailleurs, on pourrait même élargir le raisonnement en expliquant que les personnes qui ont le plus élu Emmanuel Macron, alors sont évidemment amalgamées, hein, mais ce sont quand même les personnes âgées qui forcément ont moins tendance à la radicalité du fait de leur âge. Mais d'une certaine façon, on voit quand même aussi se développer depuis quelques années autour de certaines personnalités comme Raphaël Enthoven, comme Brice Couturier, comme Aurore Berger, comme Sophia Aram ou d'autres, une certaine forme de radicalité dans une forme de républicanisme Charlie Hebdo-esque exacerbé vire à une forme d'hystérie, notamment sur la question ne nous payons pas de mots, mais de l'antisémitisme, où généralement il y a une forme d'hystérie dès que certains mots sont prononcés, des extrapolations et autres. Et à partir de ça, on voit effectivement la notion d'extrême centre même apparaître de plus en plus dans la politique depuis quelques années.
Oui, avec quand même cette c'est très caractère, ce que vous venez d'évoquer, mais aussi évidemment des calculs stratégiques
oui.
de leur part. C'est-à-dire que le génie de Macron, tactique, mais peu stratégique, c'est cette fameuse triangulation permanente, mettant dos à dos les extrêmes, se servant de l'un pour abattre l'autre, et vice-versa, qui a très bien fonctionné dans le cas d'Emmanuel Macron, avec, en réalité, un Jean-Luc Mélenchon qui, à sa façon, on y reviendra dans quelques instants, fait la même chose, c'est-à-dire que l'objectif du centre est de choisir son adversaire, et de cibler un camp, de le faire monter, de l'affronter, et de se servir de l'autre pour l'abattre. C'est redoutablement efficace, puisque ça a fonctionné et en 2017, et surtout, et c'est là où c'est quand même le plus impressionnant, en 2022, après les Gilets jaunes, après les prémices de la réforme des retraites, avec un programme social très dur de Macron pour la gauche, pour autant, au nom justement de cette prétendue lutte antifasciste, le camp de Mélenchon est obligé de se retrouver derrière. Et Mélenchon, son pari, il est très simple, et pour ceux qui ne l'auraient pas compris, la barre d'accession au second tour pourrait être assez basse en 2027. Son objectif n'est pas d'être premier au premier tour. Son objectif, c'est d'être tout simplement au second tour et de contraindre la gauche dite républicaine à voter pour lui au second tour et d'appeler à faire battre l'URN. Et d'ailleurs, c'est toute l'erreur et ou le manque de cohérence ou courage de la gauche dite républicaine, c'est de dire on condamne ce qu'a fait Mélenchon. Vraiment, là, c'est trop grave. Il est antisémite. Là, comme dirait Madame Marine Tondelier, cette fois, ça suffit. Là, stop. Mais s'il est au second tour, face à M. Bardella, M. Zemmour, Mme Knafaud, Marion Maréchal, qui vous voulez, dans ce cas-là, nous devrons tous nous rassembler derrière la France insoumise. Oui. Et en fait, amen, la messe est dite, Jean-Luc Mélenchon a cet objectif, le second tour à 16%, pour après rassembler
toute
la gauche.
Et en plus, j'ai envie d'ajouter qu'il décrédibilise complètement justement toute cette gauche, des Jérôme Guedj, des Marine Tondelier et autres, qui en fait, effectivement, passent pour des pitres. À dénoncer la France insoumise hors période électorale et à se rallier à elle dès que ça arrive. D'ailleurs, on observe durant ces élections municipales dont on n'a pas encore parlé, mais
on va en parler un petit peu, Charles. Vous avez raison. C'est aussi l'actualité brûlante.
Mais bien sûr. Mais ces élections municipales, où en fait, on voit que par exemple à Marseille, Benoît Payan est vraiment pas contre l'idée d'avoir quand même les voix de Sébastien Delogu, éventuellement faire une alliance avec lui.
Après, c'est pas
évident
d'avoir les voix que.
Non, mais même que ce serait pas si terrible en fait que Sébastien Delogu se désiste au second tour en faveur de Benoît Payan. On a la même situation à Lyon où effectivement la candidate insoumise dont le nom m'échappe, je pourrais me retirer pour Grégory Doucet qui lui-même est pas tout à fait contre cette idée de faire une alliance avec la France insoumise, alors que au niveau national, ah oui, effectivement, c'est absolument terrible, plus jamais ça, etc. Même d'ailleurs, on aperçoit, chose que je tiens à souligner, qui a été assez peu dite, je trouve, mais que durant cette période, on parle de primaire de la gauche, on parle de, qui est une vaste blague, mais quand même, de primaire de la gauche, de réunion entre tous ceux qui sont ni Glucksmann, ni Mélenchon, etc. Les communistes sont particulièrement discrets.
Ils ont très peu d'élus et très peu de personnalités de premier plan.
Mais ils ont
ils sont partis au municipal.
Oui,
Roussel, Léon Desfontaines, dont on parlait tout à l'heure, sont en train de guerroyer.
Oui.
Et l'ami Léon Desfontaines est à Amiens, si je dis pas de bêtises. Oui. Roussel dans son fief. Et je pense qu'ils attendent, et ils ont bien raison en l'occurrence, bien sagement et bien loin de la balle. Que cette tempête passe.
Mais bien sûr, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on les voyait assez présents médiatiquement, d'une certaine façon, à essayer de trouver en tout cas leur créneau, parce qu'ils ont quand même leurs 2-3%, 4%, 5% d'audience auxquelles ils ont droit, mais on voit quand même qu'ils créent aucune actualité, qu'ils essayent surtout de se faire oublier ces derniers temps, pour effectivement pouvoir voir qui s'en sort. Et après, compter les points et voir dans quel camp ils se rallient.
Si je vous dis Hollande.
Oui. Ah bah alors ça c'est, j'ai envie de dire, c'est votre grande théorie Stanislas Rigaud, mais qui me plaît évidemment beaucoup. C'est selon laquelle François Hollande évidemment serait plus rusé que tous les autres et parviendrait tout à fait à pouvoir se glisser au second tour en ralliant un petit peu tout le monde autour de lui. Moi je pense que malgré le bilan catastrophique d'Emmanuel Macron, je suis pas sûr que les Français aient tout à fait oublié non plus. Et qu'en termes de querelle d'appareil, peut-être avez-vous raison. Et sans doute que François Hollande s'est refait une peau bien plus neuve que celle qu'il ne méritait après ces quand même 5 années catastrophiques de mandat. Mais je pense que sans doute 10 ans après, ce sera beaucoup plus simple de défendre son bilan que par la suite, enfin que directement en 2017.
Vous viviez mieux il y a 10 ans ou aujourd'hui, Alexandre?
Ah mais c'est certain, mais en l'occurrence, c'est pas... Oui, mais on vivait mieux il y a 15 ans ou il y a 10 ans?
Ouais, il y a 15 ans. C'était déjà François Hollande, il y a 15 ans.
Non, justement, c'était avant François Hollande,
il y a 15 ans. Il y a 15 ans? Oui. Bah, plus maintenant.
Oui, bon, alors... il y a 15 ans, on était en 2011, donc c'était Nicolas Sarkozy.
Ouais, Hollande arrivé.
Oh, alors... Attention, vous êtes un petit peu de mauvaise foi, ça ne m'étonne pas tout à fait de votre part.
Ouais, ça c'est vrai, je ne l'ai pas été trop ce soir. Non mais attendez, je vais vous dire. Hollande, déjà, alors, pour faire un peu d'information dans cette émission, c'est pas trop mal de temps en temps, il est révélé ce soir dans le Figaro que Olivier Faure et Gabriel Attal se sont vus. Gabriel Attal a un créneau qui est très simple, c'est de François Ruffin à Gabriel Attal. Et
jusqu'à Édouard Philippe.
Jusqu'à Édouard Philippe, ouais, à peu près. Quand François Hollande a exactement le même espace. Je crois honnêtement que les deux plus malins de cette séquence, là, pardon de parler un peu de façon cynique et de parler de Popol, Darmanin a été brillant, comme d'habitude, et a dégainé sur Gabriel Attal.
Rappelez aux auditeurs quand même que vous n'avez aucune affection
non,
idéologique.
Aucune, non, mais vraiment, mais soyez-en sûrs, j'ai du respect pour la tactique politique, pour les types qui ne lâchent rien, et il se trouve que Darmanin, malgré son bilan catastrophique, et je peux vous faire la litanie des reproches que j'aurais à lui faire, mais il arrive le soir même à flinguer Attal, mettre un pistolet sur la tempe de tout son camp, et les obliger tous, et ils se sont positionnés par rapport à Darmanin, en l'espace d'une émission où il va sur CNews, alors que Retailleau n'a à peine réagi, qu'Attal ne sait pas quoi dire, il est le premier à tirer, et l'autre, très bon, très malin, François Hollande, prise de hauteur républicaine, malice, dérision, efficacité, coup de griffe. Les 15 kilos de François Hollande en train de perdre, c'est pas lié au hasard. Mmh. Moi, je crois beaucoup à cette théorie, j'en suis persuadé, et je crois surtout que Gabriel Attal ne fait pas le poids face à François Hollande, Olivier Faure ne fait évidemment pas le poids face à François Hollande, et que Mélenchon joue à un jeu très dangereux, et Dieu sait, et vous savez aussi, c'est un peu mon paradoxe, c'est que je suis à la fois pour Hollande et à la fois pour Mélenchon. Mmh. C'est un peu mes deux paris. Simplement, Mélenchon commence honnêtement, et Dieu sait, je pense qu'il est stratège et assez visionnaire sur l'électorat de gauche, quitte sur une élection qui est maintenant dans moins d'un an, en réalité, il commence vraiment à filer un mauvais coton. Mmh. Et que même pour la gauche la plus radicale, Mélenchon commence à devenir un problème. Parce que le paradoxe, et ça je crois que c'est ce qu'il faut comprendre si l'on veut comprendre la gauche aujourd'hui, il est très simple. Il y a un candidat qui a une chance d'accéder au second tour aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Par la radicalité, par un électorat ciblé. Mais ce grand paradoxe, c'est que celui qui a le moins de chances de gagner au second tour, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et le candidat de gauche qui a le plus de chances de gagner au second tour est un candidat qui est sur ce créneau social-démocrate. On a parlé d'Attal, on a parlé d'Olivier Faure, on a parlé de Marine Tondelier, François Ruffin, Glucksmann ou François Hollande. Mais que ces gens-là ont plus de chances pour l'instant de faire 4% qu'autre chose. Sauf que la gauche qui est un électorat, enfin la gauche qui est représentée par un électorat extrêmement discipliné, qui est capable à chaque fois de voter utile d'un seul homme, de s'allier, de se rallier, de se désunir, de s'unir, devra faire un choix. Ce sera soit, et ce sera passionnant, soit le choix de la radicalité du bloc contre bloc, retour clivage droite-gauche, extrême-gauche, extrême-droite, antifasciste-fasciste, mais probablement électoralement parlant de perdre, ou alors de se refaire manger par le centre, de manger son pain noir pour absolument éviter l'extrême droite. Ça va être absolument passionnant, avec, je crois, les deux plus grands fauves de la gauche depuis 15 ans, 20 ans, Hollande et Mélenchon. Hollande joue extrêmement habilement en se gardant bien de toute guerre d'appareil. Il a des réseaux, il a les journalistes. C'est important. Mélenchon, pour moi, fait une erreur qui est majeure. C'est que, quoi qu'on pense aujourd'hui d'Express, Le Point, je suis le premier à vous expliquer et être capable de vous dire pendant 2 heures l'importance du digital, des réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. À la fin des fins, il y a des commentaires. À la fin des fins, il y a des JT. À la fin des fins, il y a des JT qui représentent 10 millions de personnes par soir. Et François Hollande, il sait parler à ces gens-là. Et surtout, et j'en finis là-dessus, eu égard de la crise internationale, où Hollande jouera 3 cartes, enfin, jouera dans cette campagne 3 cartes. L'international, moi, Poutine, Trump, je les ai eus. Deuxièmement, l'anti-Macron. Si une personne a le droit de détester Emmanuel Macron en France, à part les millions de Français qui l'a mis très cher, évidemment, c'est François Hollande. Trahi. C'est le retour de César. C'est César qui ressuscite François Hollande. donc détestation de Macron, et troisièmement, évidemment, l'assurance face aux jeunes loups d'extrême droite que sont, si évidemment Marine Le Pen ne peut se présenter, mais Jordan Bardella, Sarah Knafo, ou la menace d'Éric Zemmour, etc., vous avez compris, la stabilité, la sûreté d'un ancien chef d'État qui, mine de rien, quand il était au pouvoir, on vivait un peu mieux. Et puis sur les attentats de 2015, quelle dignité, François Hollande.
Oui, non, mais c'est sûr que...
Je précise que c'est...
Oui, c'est ironique, et vous-même...
Je me prête au jeu hollandiste.
Oui,
voilà.
Oui, bien sûr, mais vous avez bien raison, il faut se mettre dans la tête de l'ennemi pour mieux le combattre, mais...
Ou mieux se faire embaucher, cher Alexandre, je ne cache pas du tout le fait d'être au chômage en ce moment.
non, mais effectivement, je vous rejoins assez. Après, il y a quand même quelque chose qui n'est pas négligeable dans toute cette affaire, vous parliez des réseaux Hollande, moi je pense qu'il y a quand même une question d'appareil... qui va nécessairement jouer. Pourquoi ? Parce que, d'une certaine façon, comme on ne gouverne pas contre son peuple, on ne se fait pas élire contre son parti. Le parti de François Hollande est actuellement extrêmement divisé, presque à 50-50, enfin même à 50-50, entre la ligne Glucksmann, anti-Nupes, et la ligne... justement, Nupes, Olivier Faure, je parle pour l'intérieur du PS. François Hollande louvoie un petit peu à ce sujet en expliquant « Oui, je suis pour la Nupes, mais la Nupes contre LFI, ce qui est quand même une position difficile à tenir. » D'un autre côté, faut pas oublier que les écologistes n'aiment pas François Hollande parce que François Hollande a tué les écologistes pour plusieurs années quand il les a acceptés dans son gouvernement en leur donnant 2-3 concessions. Il a tué l'appareil interne des écologistes. Les insoumis, évidemment, considèrent que François Hollande était un centriste et était l'ancêtre du macronisme. Et aussi malin qu'il puisse être, aussi bon que puissent être ses réseaux dans les journaux, etc., je pense qu'il aura besoin, d'une certaine façon, de cet appareil. C'est bête, mais une campagne, ça se fait aussi par des militants. Vous-même avez été militant, Stanislas. Vous savez quel est l'impact que peuvent avoir les militants sur une campagne. Dans le fond, si François Hollande n'a aucun appareil derrière lui... On peut admettre qu'il puisse réunir 500 maires, on peut admettre qu'il puisse faire une très bonne campagne, etc. Sans souci. D'un autre côté, si jamais il n'arrive pas à se débarrasser réellement des candidats de la primaire de la gauche, s'il n'arrive pas à se débarrasser de Raphaël Glucksmann, s'il n'arrive pas à vraiment tuer dans l'œuf Gabriel Attal, il aura vraiment du mal à même créer une forme de néo-hollandisme. C'est-à-dire que je vois mal des gens venir défendre... François Hollande sur les plateaux, recréer un état-major. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier aussi que les proches de François Hollande, il y en a, mais c'est quand même des personnes comme Stéphane Le Foll, Jean-Christophe Cambadélis, qui sont quand même vraiment mis au placard depuis quelques années. Je pense que je dis pas que c'est impossible, mais je pense que comment il s'appelle, Bernard Cazeneuve. Je pense quand
plutôt
même que
populaire, c'est Bernard Cazeneuve.
Assez peu en réalité, parce que il rappe, enfin. Il suscite peu de rejet, mais très peu d'adhésion aussi.
Oui, mais ce sera, et ça m'a, voilà, ben c'est parfait, vous me faites la transition. Rêvez, cher Alexandre.
Ah.
La question de l'élection présidentielle, notamment au second tour et dans l'élection qui arrive, ne sera pas tant une question d'adhésion que de rejet de l'adversaire. Et Hollande, et on le voit dans les électorats de droite, n'est évidemment pas plébiscité, mais beaucoup moins détesté et que Macron finalement, et que Mélenchon. Premier élément. Deuxième élément, François Hollande, vous avez raison, n'a pas d'appareil à proprement parler aujourd'hui. Mais s'il y a bien une personne aujourd'hui dans ce paysage politique qui sait diriger un appareil, je mets de côté Marine Le Pen qui est un parti très jacobin, très centralisé, et Bonaparte, oui, bonapartiste. Olivier Faure ne tient pas le parti, Mondoni ne tient pas son parti. Les ondes sont soit trop petits, soit trop faibles. Bruno Retailleau incarne chaque jour qu'il ne le tient pas. Gabriel Attal, à un an et demi de la présidentielle, n'arrive pas à faire venir Madame Borne à ses meetings. Autant dire que c'est une catastrophe. Donc, vous voyez, les appareils aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose. La France Insoumise a 3 adhérents. Ce qui compte, c'est justement.
Bien sûr, bien sûr. Il est en gigantesque.
Évidemment. Mais, aujourd'hui, déjà, paradoxalement, c'est une aide pour François Hollande de ne pas être un homme d'appareil et d'être un recours. Moi, je crois que Hollande, il joue la carte du recours. Alors, les recours se sont souvent cassés à gueule. On sera d'accord là-dessus. Mais là, Mélenchon, elle est très loin. Et là, je vais vous faire part d'une conviction.
Je suis d'accord.
D'une conviction, mais. Et là, c'est vraiment plus de l'instinct ou de l'humain que de l'analyse. Mais Tondelier comme Faure, en passant par Ruffin, Corbière, etc., font face à un géant, qui est Jean-Luc Mélenchon. Et je crois beaucoup au rapport de force, qui n'est pas qu'en termes de militants, qui n'est pas qu'en termes de sous sur son compte en banque de campagne, qui n'est pas tant une question d'abonnés sur les réseaux sociaux, mais de niveau. Et je crois profondément, mais vraiment profondément, qu'aucune de ces personnes que je viens de citer à gauche ne se sent réellement capable d'affronter frontalement Jean-Luc Mélenchon. J'en suis absolument certain. Oui. Depuis 2017, ils se sont tous fait humilier par Mélenchon. Il les tient tous et il leur fait peur.
Et d'ailleurs,
je finis parce que je trouve que c'est quand même un point intéressant. Mélenchon et ses sbires de Bompard à Panot leur font très peur. Et François Hollande, qui est souvent moqué comme un mou du genou, un pépère, etc., a beaucoup de défauts, mais c'est un immense tueur. C'est le plus grand tueur de la Ve République, sûrement ou l'un des plus grands avec un autre socialiste, évidemment François Mitterrand, mais que ce soit dans sa vie familiale, dans sa vie politique, c'est quand même quelqu'un qui a réussi à diriger le Parti Socialiste, non pas d'aujourd'hui avec 15 clampins, mais un Parti Socialiste surpuissant où les Strauss-Kahn affrontaient les Fabius, les Cazeneuve, les Royal. Il a quand même tué sa propre femme à l'époque, politiquement. C'est un type qui n'a peur de rien, et j'en finis là-dessus, et qui a sûrement deux fois déjà à humilier Jean-Luc Mélenchon, et à la fin des années 90 au congrès du PS, et en 2012, malgré une très bonne campagne de Mélenchon.
Alors, ça c'est évidemment tout à fait juste. Je rajoute aussi que Raphaël Glucksmann a une stratégie d'évitement vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. Et il a tenté d'ailleurs d'affronter Éric Zemmour en débat, mais d'ailleurs comme Marine Tondelier a tenté de le faire face à Marion Maréchal, en esquivant la question Mélenchon et en disant « je combats directement l'extrême droite, ça ira plus vite ».
Et voilà. Il n'y arrive pas.
Et en fait, ils n'y arrivent pas, ils sont pas au niveau. C'est-à-dire que Marion Maréchal, pardon, mais a mis la misère à Marine Tondelier.
Ouais, bien sûr.
Éric Zemmour, qui était pas d'ailleurs au sommet de sa forme, j'ai trouvé.
Mais il a explosé.
A quand même eu une séquence, en tout cas, qui était largement meilleure que tout ce qu'a pu faire Raphaël Glucksmann.
Toute la gauche a lâché Glucksmann de joie.
Ah, mais bien sûr, mais tout le monde, d'ailleurs, il y a plusieurs papiers qui sont sortis à ce moment-là expliquant, ce qu'on constate, c'est que Glucksmann n'est pas du tout au niveau qu'il prétendait être. Alors, j'ai envie de faire un petit peu, d'être un peu taquin. Il y a une personne qui réunit exactement les mêmes caractéristiques que François Hollande et qui peut même ratisser plus large, théoriquement. Et c'est Villepin. Et qui a un niveau intellectuel qui est égal, voire supérieur à celui de Hollande, qui a un côté, je pense, beaucoup, assez grotesque, plus que François Hollande, finalement. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup de la mise en scène, c'est quand même beaucoup de l'ego, c'est quand même assez démonstratif, c'est quand même de grands discours,
vous
d'une certaine façon.
Peu.
Ah ouais, merci. De grands discours sur l'humanisme, la France.
Eh, vous le tenez vraiment bien, Blague à part.
Merci, merci
c'est
beaucoup.
Précieux.
Ce n'est pas Dominique de Villepin que vous avez en face de vous.
Oh pardon, excusez-moi.
Refaites-le
là, deux secondes.
La France, en 2004... C'est tenu droite face au reste. C'est absolument. On se retrouve l'un face à l'autre. J'ai envie de dire, amenez-moi un public la prochaine fois, Stanislas, pour m'applaudir.
Je vais essayer de venir avec des chroniqueurs la prochaine fois déjà.
Oui, ce sera un bon début.
Ça me fera plaisir.
Mais non, Dominique de Villepin, pour le coup, remplit toutes les caractéristiques que vous avez définies, voire peut brasser plus large à droite.
Je vais vous répondre, cher Alexandre, mais je lis d'abord une question d'un auditeur qui souhaite rester anonyme, qui nous dit bonsoir, merci pour cette émission très intéressante. Et je pense que pour 2027, ce sera un candidat macroniste inconnu qui gagnera. LFI s'est grillé, le RN devient lisse jusqu'à oublier son électorat. Donc qui est ministre de l'économie actuellement? Eh bien, peut-être cette personne, bien courtoisement. Alors, cher ami auditeur, merci. Je vous rappelle que vous pouvez en effet nous contacter sur Radio Courtoisie à l'adresse courtoisie@radiocourtoisie.fr. Nous répondrons évidemment à vos questions. Je précise en effet que la discussion que nous avons là est une conversation évidemment de ce qu'on appelle Popol,
oui,
avec de la prédiction, beaucoup de spéculation et beaucoup de choses peuvent évidemment arriver. Je vous réponds sur Villepin. Villepin, savez-vous la dernière fois qu'il s'est présenté à une élection?
Ah tiens, excellente question.
Jamais.
Oui.
Dominique de Villepin est un immense acteur qui est d'ailleurs représenté dans un film qui s'appelle Le Quai d'Orsay, que vous avez sûrement vu, qui est génialissime. Et je veux dire, Villepin est évidemment détesté par nos camps et pour multiples raisons. Il me touche un peu par son... Il a une forme de sincérité, de naïveté, grotesque, un peu amusante. Et en effet, là où vous marquez un excellent point, mais je vous l'accorde, 27, avec les enjeux internationaux, après un Macron bébé qui a été élu et qui a eu tout le monde, et j'en passe des meilleurs, sera peut-être aussi l'élection des générations. C'est-à-dire que il y a un scénario très simple où Marine Le Pen est candidate, en face il y a Bruno Retailleau, Édouard Philippe, Hollande, Mélenchon et c'est une élection de dinosaures. Mais il y a aussi, et donc, ou à l'inverse, un candidat jeune de gauche, style Attal, cela joue un peu et file entre les mailles. Un autre scénario, à l'inverse, les candidats sont très jeunes, Knafo, Bardella, Attal, Glucksmann, et là où évidemment un Mélenchon, un Villepin ferait figure d'autorité. Mmh. Et donc il y a un peu cette espèce de carte, je trouve, d'incarnation qui va jouer, et j'en finis sur un point, mais très intéressant, le niveau. Mais vraiment, je m'attarde là-dessus. Il se trouve que, vous le savez peut-être, on en a déjà sûrement discuté, j'ai une hygiène de vie le matin qui m'invite à écouter 2 à 3 matinales en plus de lire la presse. Tous les matins, je m'efforce de suivre ce qui se dit à la radio ou à la télévision. Et depuis maintenant plusieurs mois, je commence, alors que je n'ai que 26 ans et que je suis l'actualité que depuis une petite dizaine d'années, je commence à être lassé des mauvais porte-parole, des gars de petit niveau qui répètent des éléments de langage. Et il faut reconnaître que si je devais citer 5 personnes que j'écoute, je mets de côté les chefs de parti, hein, bien sûr, mais les personnalités que j'écoute, elles sont simples, il y en a 5. Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, François Hollande, Dominique de Villepin. C'est les 5 où, quoi qu'on pense d'elles sur le fond, ces 5 personnalités viennent régulièrement sans éléments de langage, ils ont évidemment des objectifs et des coûts à faire, mais globalement, ces 5-là, on sait qu'il se passe quelque chose, qu'il y a du fond, et que les prises de position qui sont prises, qu'ils prennent, pardon, sont en général habitées par autre chose que le dernier article vu sur Twitter la veille.
Je voulais que je vous dise, il y a quand même quelque chose de très...
Et je mets de côté chef de parti comme Bardella, Knafo évidemment qui est en campagne, etc.
Très intéressant ce que vous dites, parce que je trouve qu'il y a quelques personnes qui effectivement sont, alors qu'on attendrait presque effectivement de la sincérité de leur part, sont très lisses, sont très dans l'idée de porter un discours, de porter des éléments de langage, et en fait c'est presque une forme de politique à l'ancienne que de vouloir marteler ces éléments de langage sans forcément y apporter beaucoup d'originalité, de singularité, de sincérité. Dans le même style que ce que vous décrivez, moi je mettrais également, même si je ne sais pas si la sincérité est le mot qui le caractérise le mieux, Laurent Wauquiez, qui je trouve a un côté où...
Ah, elle est technique. Moi, je trouve beaucoup de talent à Laurent Wauquiez, mais je ne m'attendais pas à Laurent Wauquiez.
Je comprends, mais encore une fois, sans affinité personnelle, idéologique ou autre, mais je trouve qu'il a un côté où...
On dit que c'est le plus brillant de tous. Non, ça, mais, c'est vrai.
Oui, on le dit, effectivement. Je crois qu'il a été major à
l'ENA, il a fait le NS, il est brillant.
Apparemment, effectivement, c'est un puits de culture, même si j'avoue qu'il le montre assez peu en réalité, mais je trouve...
On sent qu'il ne faut pas les chatouiller sur le fond.
Voilà, mais je trouve qu'il a effectivement ce côté-là, qu'il arrive à ne pas être technocrate, en même temps très politicien, mais politicien sans recycler en permanence les mêmes mots et en essayant d'avoir... pareil, dans le même style, malgré, encore une fois, tout le rejet que je peux lui apporter sur les mots politiques, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, que je trouve finalement assez bon à l'oral, assez sympathique à écouter
mais
en
oui,
réalité,
mais parce quand on s'extrait de Alexandre, ça. C'est là où, en fait, nous sommes d'accord comme si nous en débattions, mais Wauquiez comme Le Maire ont... Mais d'ailleurs, en réalité, d'une certaine façon... Darmanin Retailleau dans un autre style.
Dire que Bruno Retailleau justement m'a énormément déçu.
Exactement. Ben voilà. Et ben vous savez pourquoi? Parce que justement il est venu faire de la politique aérie, à se présenter en premier, à faire des coups, etc. Quand Wauquiez est malin, alors, s'il y en a bien qui est politique, c'est lui.
Oui.
Et je vous invite à lire le portrait de Nathalie Chouk dans Le Point, qui est absolument merveilleux, où on comprend toute la violence qu'il habite. Mais c'est un très beau papier sur la violence de Laurent Wauquiez qu'il a en lui, où il explique que chaque jour il pense à la présidentielle. Tout en étant capable d'être patient, de se mettre en retrait s'il le faut pour ses idées. Enfin bref, c'est un très beau papier. Mais Wauquiez comme Bruno Le Maire, et vous le savez, je n'ai pas, et notamment eu au regard du niveau des grandes écoles aujourd'hui, un respect particulier ni pour l'ENA, ni pour l'ENS, ni pour HEC. J'ai du respect pour beaucoup, les élèves qui ont réussi à avoir les concours. Les cours aujourd'hui ne sont plus nécessairement ce qu'ils étaient, mais qu'importe. Bruno Le Maire, c'est un lettré.
Oui.
Laurent Wauquiez, il sort de l'ENS. C'est des personnes qui, aujourd'hui, quand on les écoute, c'est agréable. Et on parlait tout à l'heure en antenne de Manuel Bompard et de sa résilience face à la...
Ah oui,
plutôt face...
mathématicien, pourtant c'est ça qui est étonnant. Mais,
non, mais justement, mais, esprit très bien fait, puissant, mais on sent dans le vocabulaire, dans la façon de s'exprimer, ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, vous comme moi, et je le prouve à chaque mot que je prononce, notre niveau linguistique n'est pas le même que ceux qui nous précèdent et qu'il y a des écarts de niveau. Et que d'ailleurs, si vous regardez la façon de s'exprimer de Dominique de Villepin, de Jean-Luc Mélenchon, d'Éric Zemmour, même avec un Laurent Wauquiez ou un Bruno Le Maire qui sont quand même plus jeunes, il y a un écart, il y a une culture, il y a des réflexes et puis évidemment une expérience de vie. Alors encore une fois, moi je considère que ces gens-là, évidemment pas pour Éric Zemmour, mais ont détruit le pays. Donc je n'ai pas l'ombre d'une admiration profonde politique pour ces gens-là. Simplement, je crois qu'il est plus agréable aujourd'hui d'écouter ces personnes-là sur des formats plus longs. D'ailleurs, c'est leur pari. François Hollande ne fait quasiment que des formats longs où il peut s'exprimer, où il peut se montrer et à la fois très sympathique, raconter des anecdotes. Et puis, avec un Emmanuel Macron, jeune premier, mais à la fin des fins, brillantissime sûrement en privé, mais qui, par son expression orale, n'a pas toujours brillé, s'est montré extrêmement arrogant. François Hollande, c'est le quotidien des gens. François Hollande, ils l'ont vu perdre, ils l'ont vu humilier, et les Français aiment bien ça, mine de rien. Le côté revenant, le phénix, c'est très français.
Attention, vous avez presque vendu Nicolas Sarkozy à ce stade.
Mais non, mais regardez Nicolas Sarkozy.
Un peu plus que François Hollande là-dessus, dans le fond.
Mais très drôle. Après Chirac, Sarkozy, après Sarkozy, Hollande. Et après Hollande, Macron. Sur les quatre derniers, si on regarde bien, c'est à chaque fois un mou, en tout cas dans l'apparence, un gentil.
Sarkozy, très loin d'être un mou ou un gentil.
C'est ce que je vous dis.
Oui.
Chirac,
oui.
Excité. Enfin, oui. Chirac mou, oui. Puis Sarkozy plutôt excité. Hollande, Et il y a aussi cette volonté un peu de changement. Et d'ailleurs, si vous remarquez bien, les premiers ministres qui aujourd'hui ont eu du succès sous Macron, ce n'est pas Borne, ce n'est pas Attal, c'est Le Cornu.
Castex.
Centriste mou par excellence. Castex. Au début, Édouard Philippe, mais qui est arrivé avec les gilets jaunes, donc qui a cassé cette image-là. Mais Le Cornu aujourd'hui, pardon, enfin on l'oublie trop souvent, mais il est Premier ministre, il s'en sort bien. Enfin, d'un point de vue, encore une fois.
Bayrou a tenu un certain temps quand
Bayrou
même. Il s'en est sorti sans trop de détestation. Bon, après, il a rien fait, fameux mots d'Olivier Marchal, mais effectivement, bon, il a rien fait durant ses mois passés à Matignon. Mais d'un côté, il n'a pas suscité de détestation particulière.
Mais c'est là où je vous disais que ce contrat ne sera pas nécessairement l'adhésion, mais ce sera celui qui a le moins de rejet. Et encore une fois, pardon, je précise, avec aujourd'hui un enjeu pour tout le monde qui n'est pas d'être premier au premier tour, mais qui est d'être face au Rassemblement National.
Finalement, toujours dans cette stratégie, sauf Jean-Luc Mélenchon.
Exactement. Mais peut-être a-t-il... Alors là, je vais reprendre ma casquette, non plus hollandiste, mais mélenchoniste. C'est peut-être pour ça que cette stratégie, encore une fois, le seuil d'accession au second tour pourrait être comme en 2002.
15, 16, 17%.
Exactement. Et dans ce cas-là, Mélenchon n'aura pas eu tort. Et là, ce sera passionnant, mais et à la fois extrêmement inquiétant et passionnant. Que fait un François Hollande concrètement s'il y a Mélenchon face à un candidat dit d'extrême droite au second tour? Le nini, c'est. Et attendez, c'est intéressant, ça va nous permettre de recouper avec le tout début de notre conversation. Si Mélenchon aujourd'hui piège la gauche, par exemple, et encore une fois, ça le prouve, parce que fera Hollande, que fera Cazeneuve, que fera Glucksmann si Mélenchon va au second tour? Mais à l'inverse, là où Mélenchon fait une erreur, à mon avis une petite erreur, notamment sur ce fameux paradoxe de qui a le plus de chances d'accéder au second tour à gauche, c'est lui, mais qui a le plus de chances de perdre, c'est lui aussi. Le paradoxe, c'est qu'à force de convaincre ses électeurs et ses militants qu'une menace fasciste est vraiment en train d'arriver, ses électeurs au second tour, ses électeurs au premier tour, conscients de cette fameuse menace, si ses électeurs, qui sont plutôt des électeurs sociologiquement parlant éduqués à la politique, se rendent compte que leur candidat préféré ne peut dans aucun cas de figure gagner, ils pourraient intelligemment se dire « on déteste Hollande, mais face à nos ennemis jurés, face aux nazis, votons pour un candidat qui lui peut gagner au second tour ».
Je sais pas parce
c'est
que.
C'est tout le risque de la stratégie.
Alors, je trouve ça peut-être un peu extrapolé quand même cette dernière idée, parce que dans le fond, je pense qu'il les a radicalisés quand même aussi sur beaucoup d'autres points. Et en l'occurrence.
Et je vous dis, encore une fois, surtout sur la question identitaire.
Oui, mais pas seulement.
C'est-à-dire Hollande, vous inquiétez pas. Si Hollande aura Ruffin dans son escarcelle, et ils proposeront un revenu universel. Alors moi, je n'ai aucun mal à considérer que François Hollande sera capable de proposer un revenu universel. Un retour à la retraite à 60 ans, trouver la mesure innovante. Enfin, je veux dire, ça là-dessus, sur le volet social, Hollande a quand même réussi à gagner en 2012, en hurlant que son ennemi était la finance, en sortant de la Cour des comptes, et après 40 ans de vie politique au Parti Socialiste, en étant secrétaire général et député.
Oui.
S'il faut le faire, il le fera.
Non, ça c'est assez, assez juste. Après, d'une autre façon, moi ce que je trouve assez surprenant, c'est des personnalités comme Édouard Philippe ou alors comme Bruno Retailleau qui ont été un petit peu dans une stratégie d'araignée au fin fond du placard pour mieux ressurgir après avoir tissé leur toile au bout de X temps passé en dehors de la politique, ou alors même pour Bruno Retailleau dans la politique, dans le but de mieux ressurgir et dans le but de mieux frapper. Ils sont à la masse, pardon, mais Édouard Philippe n'est même pas du tout sûr de gagner sa ville du Havre, c'est quand même assez mal engagé pour lui. D'un autre côté, Bruno Retailleau a fait un lancement de campagne absolument désastreux, il faut le dire, enfin, tout le monde a oublié que Bruno Retailleau avait commencé sa campagne deux semaines après. Bon, les événements, évidemment, vont pas en son sens.
Enfin, mais, les deux jours qui suivaient avant les événements.
C'est tout à fait juste, d'une certaine façon, je trouve assez surprenant que ces vieux requins qui préparent leur coup, Édouard Philippe, il était quand même dans une stratégie où il parlait une fois tous les 6 mois, un entretien au point tous les 6 mois pour dire ah oui, moi je suis loin de tout ça, ah oui, j'ai fait ça. Là, le dernier entretien qu'il a fait, il a dit oui, j'ai peut-être été un petit peu dur envers Emmanuel Macron. Ah oui. Ah oui,
mais oui, on va recouper, il nous reste maintenant 2 minutes de discussion. On va tout recouper. La radicalité de la société extrême gauche, camp national. Le paradigme d'être un centriste aujourd'hui et la stratégie des élections présidentielles à venir, un Édouard Philippe typiquement ou un Gabriel Attal n'ont ni la radicalité, ni l'expérience, ni la hauteur. Et je crois réellement que la campagne.
Et puis, le socle boomer centriste, c'est complètement érodé et parti au Rassemblement National
en grande
partie.
Tout simplement l'âge. C'est-à-dire qu'en fait, les nouveaux boomers sont des personnes qui ont vécu justement sous François Hollande ou Emmanuel Macron, ont vu l'insécurité arriver, et donc les fameux boomers, enfin ce qu'on considère, pardon, les boomers étant une catégorie très précise en réalité, mais en tout cas les personnes aujourd'hui à la retraite, bossaient il y a seulement 5-6 ans, et sont dévastées par le quinquennat, enfin les deux mandats consécutifs d'Hollande puis Macron. Donc, évidemment que ça marche. Et puis, moi je crois que la campagne de 2027, malheureusement, je le précise, sera d'une violence assez spectaculaire, très très violente, qu'il y aura beaucoup de sujets. Les municipales peuvent amener des grands tsunamis, on l'a dit, Édouard Philippe est donné perdant aujourd'hui au Havre, Éric Ciotti lui est donné gagnant à Nice, à Paris tout est possible, Sarah Knafo aujourd'hui est en train de croiser le cours, mais c'est quand même passionnant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le bloc national, j'ai de sympathique avec Thierry Mahani, qui lui est très dur avec Sarah Knafo, mais j'apprécie Thierry Mahani, le bloc du droit du camp national est autour des 17 à Paris, quand il était à 1,5 en 2020. Mais je crois que l'heure nous rattrape, et alors que nous n'étions que deux, j'ai l'impression de ne pas avoir parlé d'assez de sujets.
C'est vrai.
Comme quoi, le temps passe vite quand on est bien accompagné. Alors je remercie très chaleureusement Alexandre qui a accompli un très gros travail évidemment à Radio Courtoisie, puisqu'il est là le matin, et que pour dépanner des camarades, il est là le soir à 21h30. Je remercie également évidemment la régie et la technique, et je vous souhaite à tous, chers amis auditeurs, une excellente soirée, un très bon week-end et un très bon carême. A très vite sur les ondes de Radio Courtoisie.
Vous venez d'entendre Prolongation dirigée par Stanislas Rigaud, diffusée en direct sur Radio Courtoisie vendredi 27 février 2026 de 21h30 à 23h et réalisée par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris.